chape de sable. Le lointain soleil s'y reflète, éveillant un éclat métallique, pâle et froid comme une lame. Quelques instants après, un deuxième bras perce le sol. De part et d'autre, les larges pinces se déploient sur le terrain meuble pour y prendre appui, et elles poussent, elles s'enfoncent, elles font levier de toute leur force inhumaine. Dans un déchirant grincement de vérins grippés, le corps auquel elles sont rattachées émerge peu à peu. D'abord un crâne aussi lisse et chauve que celui d'un squelette, puis un œil aussi noir et rond que celui d'un cyclope. Enfin, au lieu de jambes, quatre roues encrassées qui se mettent aussitôt à tourner, émettant un vrombissement strident, envoyant des giclées de poussière rouge dans les airs. Après avoir patiné un long moment, l'étrange créature parvient enfin à s'extraire de sa fosse mortuaire. Elle se met en route, seul objet mouvant dans ce monde immuable, vers une destination inconnue. Vaisseau Cupido, 2 millions de kilomètres de la Terre, mardi 21 janvier. De longues langues rousses s'élèvent majestueusement dans le vide de l'espace. Elles se déploient avec lenteur telles des volutes, elles dansent en ondulant comme des flammes. Mais ce n'est qu'une illusion. Ce feu-là ne brûle pas. Il n'émane pas d'un âtre, mais d'un visage. Celui d'une jeune femme aux joues mangées de sang. Léonore, la pionnière française du programme Genesis. Le corps en suspension, elle est vêtue d'un jean et d'un t-shirt trop grand dont le tissu blanc flotte dans la pesanteur. Une tenue semblable à celle qu'elle arborait en s'embarquant pour le vol aller du Cupido 2 ans et demi auparavant. Mais ce n'est plus la rage de conquérir la gloire à tout prix qui fait briller ses yeux. Ce sont simplement les étoiles, qui scintillent par millions derrière la bulle de verre du parloir et sur la tablette à croquis qu'elle tient entre ses mains. Du bout de son stylet, elle reproduit les constellations et dessine au-dessus des dragons, des pégases, des chimères. Les figures mythologiques que les hommes ont cru y voir depuis la nuit des temps. Soudain, un grincement métallique retentit. Léonore détache les yeux de son œuvre. Elle tourne la tête, envoyant une onde à travers sa chevelure flottante pour regarder en direction de la trappe qui conduit aux étages inférieurs du compartiment de vie. Une grande fille aux cheveux rassemblés dans un chignon de danseuse se tient là en haut de l'échelle. C'est Elisabeth, la pionnière britannique, elle aussi rescapée de la première saison du programme Genesis.
« Léo ?»
appelle-t-elle doucement.
« J'étais sûre de te trouver ici, dans la bulle. C'est un miracle que tu n'aies pas attrapé le mal de l'espace avec tout le temps que tu y passes depuis le début du voyage. Tu n'en as pas assez ?»
Léonore embrasse le panorama cosmique du regard.
Comment peut-on en avoir assez de ça ?
Demande-t-elle en guise de réponse.
Comment peut-on en avoir assez de l'infini ?
Il va pourtant falloir que tu redescendes sur Terre, comme nous toutes, dit l'Anglaise en souriant affectueusement.
Plus qu'une petite semaine avant d'arriver en orbite terrestre. On va enfin pouvoir respirer autre chose que de l'air recyclé tournant en boucle. D'ailleurs, les équipes au sol sont sur le point de s'adresser à nous. On m'a envoyé te chercher. Tu viens ?
Léonore éteint sa tablette, range son stylet et d'un mouvement de hanche semblable à celui d'une sirène nageant dans la mer, se projette en direction de la trappe. Elle agrippe les barreaux de l'échelle et la descend à la suite d'Elisabeth jusqu'à la salle de gym circulaire, dont l'aménagement n'a guère changé depuis le voyage aller. On reconnaît les machines, les vélos, le tapis de course. Seule différence, le dôme des caméras, surplombant chaque appareil, a été recouvert d'épais rubans adhésifs opaques, empêchant toute tentative de filmer.
Je suis sûre qu'au fond de toi, tu as hâte de rentrer, dit Elisabeth, elle aussi en jean et t-shirt.
Ne serait-ce que pour retrouver Mozart, pas vrai?
Moi, je peux te dire que je brûle d'impatience de serrer Tao dans mes bras après 5 mois de séparation.
Léonore ne répond pas. Elle traverse la salle de gym sur les pas de la belle Anglaise qui poursuit à voix haute.
C'est étrange quand on y pense d'avoir effectué le voyage-retour dans 2 compartiments séparés, les filles d'un côté et les garçons de l'autre, dans les mêmes conditions qu'à l'aller. Comme si on n'avait pas vécu ensemble sur Mars pendant 2 années, comme si rien ne s'était passé.
Elle s'arrête devant la trappe conduisant à l'étage du dessous, semble réfléchir un instant, puis ajoute
« Tout compte fait, cette séparation a quelque chose de romantique. Ça me rappelle les fiançailles au début du programme Genesis. »
L'œil de Léonore étincelle.
Ce ne sont pas des fiançailles, c'est une quarantaine,
s'exclame-t-elle en saisissant le bras d'Elisabeth.
Ça n'a rien de romantique. C'est une précaution sanitaire pour éviter qu'une nouvelle fille tombe enceinte. On l'a écrit noir sur blanc dans notre déclaration d'abolition du programme. La chaîne Genesis est enterrée. Dead. Finie pour toujours. À peine ces paroles sorties de sa bouche, Léonore semble s'apercevoir qu'elle a parlé un peu trop haut, qu'elle serre le bras d'Elisabeth un peu trop fort. Elle relâche son étreinte et ajoute aussitôt d'une voix plus douce. « Excuse-moi, Lise. Ce que je veux dire, c'est que nous n'avons plus besoin de caméras, de micros, de mise en scène permanente pour vivre nos vies. Si les gens de Cap Canaveral veulent absolument organiser une cérémonie d'accueil à notre arrivée, ok, je m'y plierai. Mais ce sera la dernière fois que j'apparaîtrai sur un écran. » Elisabeth hoche la tête un peu penaude. « C'est à moi de m'excuser, Léo, » murmure-t-elle. « Et c'est toi qui as raison. Il n'y a aucune nostalgie à avoir. » Soulevant la trappe, les deux filles descendent au troisième étage, dans la salle de bain. Les cheveux de Léonore retombant un peu plus lourdement sur ses épaules à mesure qu'augmente la gravité artificielle générée par la rotation du vaisseau. Ici, pas de dôme de caméra apparent. C'est le miroir circulaire entourant la pièce qui a été entièrement barbouillée de rouge à lèvres, de fond de teint et de fard à paupières. Les couches de maquillage en séchant ont créé une sorte de croûte, évoquant une toile abstraite et bariolée. Mais c'est surtout une barrière contre les caméras cachées derrière la glace sans teint, dont la présence illégale a été révélée suite à la chute de Serena McBee. Franchissant une troisième trappe, Elisabeth et Léonore arrivent enfin dans le séjour. Là aussi, les caméras embarquées ont été systématiquement condamnées et nul terrien ne peut voir l'incroyable capharnaüm qui règne dans la pièce. Couvertures éparses, coussins sans dessus-dessous, chaussettes et soutiens-gorge abandonnés sur le canapé, il règne ici une pagaille digne d'un dortoir. 8 visages se tournent vers les nouvelles venues. Ils appartiennent aux candidates des 2 saisons du programme Genesis réunies, vivant dans le même compartiment depuis le début du voyage retour, partageant les mêmes appartements et les mêmes habits. En quittant la base de New Eden en catastrophe 5 mois plus tôt, les survivantes de la saison 1 n'ont pu emporter aucun effet personnel.
« On t'attendait, Léo !»
s'exclame Safia, la petite indienne, nageant dans un top trop grand de plusieurs tailles pour son corps menu.
« La transmission est sur le point de commencer !» renchérit Fang Fang, la singapourienne, en rajustant ses lunettes carrées.
« Mais Kelly et Chris dorment toujours dans la chambre au premier étage. Est-ce qu'on doit les réveiller ?»
Léonore secoue la tête. « Non, pas la peine. Kelly a besoin de se reposer avec sa maladie et Chris aussi du fait de sa grossesse. On leur racontera.
Bien, docteur. »
Les candidates de la saison 2 s'écartent pour laisser une place à Léonore devant l'écran panoramique qui fait face à la cheminée holographique. On sent chez elle un grand respect pour celle qui a défié le destin, révélé l'horrible secret à l'origine du programme Genesis et mis en déroute sa toute-puissante productrice. Une géante à la carrure de gymnaste et au crâne rasé lui tend un micro-cravate. C'est Saga, la pionnière suédoise, responsable communication du second équipage.
Tiens, Léo, dit-elle d'une voix profonde comme une corne de brume. J'ai bricolé ce machin pour que tu puisses causer à la Terre. Ça va leur faire tout drôle de nous entendre pour la première fois depuis qu'on a bousillé à coups de latte tous les micros du vaisseau.
Un sourire réjoui passe sur le visage anguleux de la Suédoise, comme si elle se remémorait cette destruction sauvage avec plaisir.
Parce que c'est moi qui vais leur parler ? Demande Léonore en haussant le sourcil.
« Bien sûr, Léo !» déclare Meryem, la pionnière turque, une fille au teint clair coiffée d'un voile bleu foncé. « C'est toi qu'ils veulent entendre !»«
C'est toi l'héroïne de Mars, celle qui a ouvert les yeux du monde et qui a vaincu Serena McBee !»
renchérit Nikki, la pionnière néerlandaise, dont les cheveux sont aussi roux, longs et ondulés que ceux de Léonore. Mais cette dernière ne semble pas partager l'enthousiasme qui l'entoure.
« Serena n'est pas encore vaincue, » dit-elle sombrement. Elle a juste disparu. Ce n'est pas la première fois, et elle a déjà montré qu'elle pouvait réapparaître quand on pensait en avoir fini avec elle.
Léonore jette un coup d'œil nerveux à l'écran panoramique, encore éteint, comme si elle redoutait d'y voir surgir sa pire ennemie. Mais une belle brune aux cheveux piqués d'une rose rouge écarlate balaye ses craintes du revers de la main.
Serena a quitté la scène pour de bon. Assure-t-elle d'une voix ample et veloutée, une vraie voix de chanteuse où roule un accent hispanique. Si elle fait un comeback, ce sera derrière les barreaux d'une prison.
En attendant, je ne comprends toujours pas pourquoi tu nous as demandé de...